Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Les matins continuent donc dans la perspective de l'élection. De l'élection européenne à recevoir un certain nombre de candidats en fonction des temps de parole qui sont, comme vous le savez, calculés par le CSA. Et nous sommes en duplex avec Joël Mélin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sixième sur la liste du Rassemblement National et vous êtes députée européenne depuis 2014. Je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Saïs, que je salue.
Bonjour
Frédéric.
Bonjour à tous.
Pour dialoguer avec vous, Joël Mélin. Et tout d'abord, comme il y a aujourd'hui une forme de polémique sur le travail véritable des députés européens du Rassemblement National, qu'avez-vous fait durant cette mandature? En quoi consiste votre travail, Joël Mélin?
Bah écoutez, déjà, je vous propose d'aller tous voir les sites de tous les députés sortants, et particulièrement le mien, où vous verrez le travail qui a été fait. Le travail est celui du travail de tous les députés européens, c'est-à-dire l'accompagnement des textes, puisque l'Europe est en fin de compte, et particulièrement le Parlement européen, est un grand pouvoir législatif. Donc il s'agit de faire des textes qui ensuite s'imposeront aux différents pays via les règlements et via les directives. Notre travail consiste à freiner les textes qui nous semblent ne pas aller dans l'intérêt des Français et à accompagner autant que faire se peut, autant qu'on veuille bien nous donner la place, puisque la démocratie n'est pas la vertu première de nos adversaires au Parlement européen, de nous donner la place pour pouvoir amender les textes dans l'intérêt des Français.
Alors, est-ce
et cela tout au long du mandat.
Pardonnez-moi, comme vous êtes en duplex, c'est toujours un peu compliqué. Joël Mélin, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez fait, alors comme texte par exemple, que vous avez proposé, ou au contraire que vous avez freiné, parce que sinon ça reste un peu abstrait?
Alors, texte proposé, nos textes, malheureusement, bien entendu, de la simple étiquette qui est la nôtre, ont été balayés d'un revers de main. J'ai vu aussi bien les libéraux que les PPE, que les socialistes rejeter d'un revers de main des rapports neutres.
Les conservateurs européens.
Les conservateurs, voilà, précisé. Oui, rejeter d'un revers de main des rapports purement techniques et neutres, tels que celui du règlement pédiatrique, donc pour lequel il s'agissait de pouvoir permettre de soigner les enfants atteints d'un cancer, lorsque j'ai travaillé sur tous les texte concernant l'exposition des travailleurs aux éléments carcinogènes, c'est-à-dire les éléments qui donnent le cancer lors du travail. Et à l'inverse, j'ai soutenu des textes, même parfois portés par des adversaires politiques. Je pense particulièrement à la coordination des systèmes de sécurité sociale, où j'ai apporté au nom de notre groupe le soutien aux rapporteurs parce qu'ils allaient dans un sens d'amélioration du texte en place. Et particulièrement, nous nous sommes rapprochés de lui pour lutter contre le dumping social, alors que les conservateurs, eux, ont fait capoter ce texte en dernière minute, malgré une sorte de consensus qui n'était bien évidemment au-delà de la politique, mais qui a buté contre un système économique hyperlibéral.
Alors, parce que je dois préciser, Joël Mélin, que vous êtes médecin dans le civil et que donc au sein du Rassemblement National, vous êtes particulièrement intéressé par les questions de santé. Une question de Frédéric Saïs.
Oui, les élections européennes, ce sont aussi des alliés. Il y a un de vos alliés qui a perdu pas mal de crédit cette semaine. C'est le numéro 2 du gouvernement. On en parlait à l'instant dans la revue de presse de Camille Magnard. Monsieur Strache du FPE autrichien. Plusieurs journaux ont révélé donc cette vidéo dans laquelle il se dit prêt à accepter un discret financement d'un oligarque russe en échange de marchés publics, ça s'appelle de la corruption et du financement illégal. Est-ce que ces révélations vous choquent ou est-ce que vous dites finalement, c'est un peu ce qu'on entendait, c'est une sorte de complot et il ne faut même pas en être offusqué?
Ah bah écoutez, si c'est avéré, c'est bien entendu choquant et c'est à la justice autrichienne de mener son travail pour en tirer les conclusions. Si c'est une sorte de piège, c'est ce que vous disiez tout à l'heure parce que je vous ai bien écouté, eh bien là aussi, c'est l'enquête qui le dira.
C'était une question qui a été posée par certains journaux que relayait Camille Magnard.
Oui, mais écoutez, si c'est avéré, bien évidemment, c'est totalement choquant. Je crois qu'effectivement, il faut que les hommes et les femmes politiques changent réellement leur méthode. Bien entendu, on ne peut pas passer de systèmes qui sont des systèmes qui ont largement évolué vers les règles, et qui, entre guillemets les règles, puisque ce sont des anti-règles de l'hyperlibéralisme, c'est-à-dire du tout finance, pour arriver à faire de la politique dans l'intérêt
mais
des électeurs et des gens qui nous écoutent.
Pardonnez-moi, ça veut dire que ce parti-là, le FPE autrichien, n'est plus digne d'être votre allié au sein des instances européennes, il faut couper les ponts? pour être clair.
Écoutez, c'est pas à moi d'en décider ou d'en émettre un avis. Il s'agit d'une personne. Je ne suis pas sûre qu'un dirigeant politique soit le représentant de tout un parti.
C'était son dirigeant, tout de même.
Dans ce dirigeant-là, ce qui est vrai, c'est que nous avons tous besoin, et il est évidemment le cas avec Marine Le Pen, d'incarner nos idées dans une personne qui ait fait la preuve de ses capacités et de sa probité. Et il est évident que lorsque des événements pareils touchent un parti politique, ce parti politique se trouve en position délicate.
Et puis alors, justement, puisqu'on parle d'événements qui touchent des partis politiques, il y a un collaborateur de Nicolas Bay qui a été photographié dans le cadre d'une soirée privée, et affublé d'un déguisement de rabbin avec des gestes qui étaient tout à fait conformes aux caricatures antisémites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous suggère, Joël Mélin, vous qui êtes sixième sur la liste du Rassemblement National ?
Ça me suggère que le fait que ces photos comme la vidéo de Strache sortent la dernière semaine sont des procédés qui sont des procédés extrêmement, à la limite, c'est pitoyable. Au-delà de ça, cette photo, elle est là aussi, comment dirais-je, tout à fait malvenue et de toute façon, en ce qui me concerne, ce sont des choses que je ne peux admettre, évidemment.
Et alors, donc, puisque vous ne les admettez pas, qu'est-ce qu'il faudrait que Nicolas Bay fasse, puisqu'il disait il y a quelques jours qu'il ne se séparerait pas de son collaborateur?
Écoutez, je ne peux les admettre au sens absolu du terme. Évidemment, quand vous voyez Rabbi Jacob, les images sont guère différentes. Alors, que fait-on?
Il y a un geste qui est tout à fait conforme aux caricatures antisémites, c'est en cela qu'il se distingue.
J'ai vu, et c'est juste ça qui me semble tout à fait dommage.
Il a l'air méchant sur la photo.
Oui, mais que dans des soirées privées, les gens soient amenés à faire des caricatures, c'est une chose qui les regarde, bien entendu. Le fait est, c'est que la sagesse veut aussi que quand on vit dans le monde politique, on ait une certaine retenue.
Bon. Sur le fond de votre programme, cette fois-ci, vous avez abandonné ce qu'on appelait la souveraineté monétaire, autrement dit, l'abandon de l'euro tel qu'il existe aujourd'hui. Pourquoi ce choix, selon vous, ce n'était pas un combat prioritaire ou bien ça passait assez mal auprès d'une certaine catégorie de l'électorat ?
Je crois que nous avons entendu parfaitement ce qui nous a été dit lors de la campagne et surtout dans les derniers jours et les résultats de l'élection présidentielle. Les Français ont besoin de repères. Les Français ne sont pas prêts à être bousculés alors que nous avons vécu, les plus anciens du moins, cette longue période où nous sommes passés du franc à la monnaie unique et de la monnaie unique à l'euro. Ils veulent des repères et ils ne veulent pas être bousculés trop vite. Il est clair que politiquement, et ils le savent d'ailleurs, et c'est ce qu'ils nous disaient lors de la campagne des régional, juste avant, en 2015 si vous voulez. C'est vrai que l'euro a terriblement affaibli notre pouvoir d'achat. Le fait est d'ailleurs, c'est que la zone euro a 2 points de chômage de plus que la zone hors euro et 2 points de pauvreté de plus que la zone hors euro. Pour autant, nous entendons les Français et nous disons, nous récupérerons petit à petit toutes nos souverainetés, tout particulièrement la souveraineté des frontières. Nous préserverons les souverainetés qui n'ont pas encore été totalement atteintes, à savoir celle souveraineté de la défense, la souveraineté fiscale. Et petit à petit, nous récupérons toutes nos souverainetés, sachant qu'évidemment, cette monnaie elle ne se comporte pas véritablement comme une monnaie, elle se comporte comme un outil de guerre économique. Il faut quand même regarder les choses en face.
Frédéric, ce que vous nous dites entre les lignes, finalement, c'est que vous avez cédé au sens du vent d'une partie de la population, d'une partie de l'électorat, malgré le fait que vous pensez que c'est un instrument, l'euro, qui est nocif pour l'économie française.
Bah écoutez, monsieur, si l'avis de la majorité, c'est le sens du vent, bah oui, appelons ça le sens du vent, si vous voulez, sauf que c'est juste la volonté des Français.
Les responsables politiques sont parfois dans la pédagogie pour expliquer pourquoi une mesure qu'ils défendent peut être meilleure.
Nous y sommes pied à pied, mais il s'agit aussi d'entendre les gens. Ce que disent les Gilets jaunes doit être entendu. Le gros problème de monsieur Macron, c'est de ne pas entendre ce que disent les Français. Et dès lors, quand un maximum de personnes s'apercevront que le problème de l'euro, même si on le règle pas immédiatement, parce que ça ferait peut-être trop à leurs yeux et ça entraînerait trop de modifications de leur vie quotidienne, ils doivent quand même s'apercevoir que notre pouvoir d'achat est terriblement diminué à cause de l'euro, puisque d'une certaine manière, quand vous payez aujourd'hui une baguette 1 euro, elle valait 1 franc il y a moins de 15 ans. Évidemment,
alors là, les chiffres sont très largement discutés, mais on a entendu en tout cas votre point de vue sur l'euro et sur le pouvoir d'achat, Joël Mélin. Sur les gilets jaunes, précisément, ils ne demandent pas que cela, ils ne demandent pas qu'une diminution des taxes, ils demandent aussi un référendum d'initiative citoyenne. Qu'en pensez-vous en tant que sixième sur la liste du Rassemblement national, Joël Mélin?
Mais j'en pense qu'il faut aussi savoir, et tout à l'heure un de vos intervenants l'a parfaitement dit, je crois que les gilets jaunes, je pense surtout à ceux des ronds-points, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas forcément une voiture pour aller jusqu'à la ville d'à côté pour manifester dans les villes. Ces gens-là, ils étaient pour beaucoup seuls chez eux. Je pense aux femmes isolées, je pense à des retraités, ils sont maintenant plusieurs ensemble, ils ne sont plus isolés. Ils étaient impuissants chacun dans leur coin, ils sont maintenant puissants, ils se font entendre. D'ailleurs, même pour certains, et je peux attester de ça, puisque j'ai retrouvé sur les ronds-points certains de mes patients, eh bien, ils ne mangeaient pas à tous les repas. Maintenant, par la convivialité, la cordialité, par la famille qu'ils se sont créés, ils mangent pratiquement à tous les repas. Je crois que ça, si on ne le
sait
pas,
si on
ne comprend pas ça.
Vous voulez dire qu'ils avaient faim?
Oui, oui, mais d'ailleurs c'est pas nouveau, hein. Moi il y a déjà 45 ans que dans le village où j'étais généraliste, mes petites dames retraitées d'agriculteurs ou de commerçants qui n'étaient pas propriétaires ne pouvaient pas l'hiver à la fois se chauffer, manger et payer leur loyer, quoi. Il fallait qu'elles faisaient des choix dans ces trois paramètres divers. Donc c'est pas nouveau, sauf que ces personnes-là ne demandent rien. C'est juste ça aussi la vertu peut-être aussi des gilets jaunes, c'est de ne rien demander, d'avoir la fierté et l'humilité d'être à une place que la société leur a fini par leur laisser.
Vous voulez dire ils
et
ne demandent rien.
Ils s'en sortent.
Vous voulez dire ils ne demandent rien alors que d'autres catégories de la population, suivez mon regard, eux demandent et sont désassistés. C'est ça que vous voulez dire, Joël Mélin?
Non, je veux dire même ils ne demandent pas leurs droits simples. Samedi dernier, on me cite le cas d'un gilet jaune qui avait une retraite de locataire, hein, je précise bien parce que c'est la condition pour avoir droit à la fameuse ASPA, vous savez, la location spécifique des personnes âgées. Eh bien cette personne avec 600 euros de retraite ne s'en sort pas, bien sûr. Quand je fais remarquer qu'elle peut obtenir cette retraite minimale, la retraite qui est due à toute personne qui n'a pas le minimum vital, on m'a gentiment dit « mais cette dame ne demandera rien ». Voilà, c'est un comportement. Donc c'est pas de l'assistance ou pas de l'assistance ou un refus d'assistance, c'est qu'ils ne font même pas appel à tous leurs droits, estimant que pour avoir travaillé toute leur vie, ils devraient avoir une retraite convenable et estimant aussi que la société devrait permettre à tout le monde d'avoir un revenu minimal.
Mais alors dernière question, Joël Mélin, très rapide sur les gilets jaunes. Est-ce que le Rassemblement national, votre parti, est favorable aux gilets jaunes ou bien favorable à l'ordre public, considère que cet ordre public ne doit être troublé en aucun cas et donc que ces manifestations le samedi sont finalement une entorse au fait que l'ordre doit régner?
Je crois que tout le monde a quand même compris qu'il y avait deux mouvements parallèles, celui des gilets jaunes des ronds-points et de quelques-uns qui pensent que malheureusement, à part la force, on ne pourra pas se faire entendre. Ceux-là, évidemment, sont ceux qui ont toute notre attention. D'ailleurs, on s'occupait d'eux très clairement puisque le thème de la campagne de 2012 avait été celle des oubliés. En revanche, il est clair que cela a offert une possibilité pour à la fois les casseurs, à la fois les Black Blocs et des gens qui sont dans l'ordre, c'est ce que j'ai rencontré l'autre jour à Gap, des gens qui sont quoi qu'il arrive nihilistes et anarchistes, d'aller jusqu'au bout de la provocation des forces de l'ordre, et là aussi ce sont les forces de l'ordre qui ont notre soutien.
Frédéric Seitz.
Votre programme évoque l'envie de restaurer l'indépendance de la France. Alors il y a un homme qu'on voit beaucoup et qu'on va voir beaucoup dans les médias français cette semaine, il s'appelle Steve Bannon, c'est un Américain, ancien conseiller de Trump, qui essaye de fédérer ce qu'il appelle les droites ou les alternatives en Europe. Il vous soumet des conseils stratégiques au Rassemblement National, c'est ce qu'il explique hier dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. On sait qu'il y avait eu aussi des financements d'origine russe pour la présidentielle de 2017, des financements russes et des conseils américains. Est-ce qu'on est vraiment dans l'indépendance de la France ?
Bah écoutez, Monsieur Bannon fait ce qu'il a à faire. Nous ne sommes pas obligés de le suivre ou d'aller dans le sens de ce qu'il, comment dirais-je, de sa démarche totale.
Il se pousse un peu du col.
Écoutez, très sincèrement, le problème de Monsieur Bannon, c'est d'être d'un système lobbyiste. Il fait le lobby qu'il a à faire. Ne sont intéressés que ceux qui veulent bien aller dans son sens. Après, il est évident qu'il a, pour lui, et moi je l'ai entendu quand très personnellement, il a effectivement des propos. Au moins dans ses propos, des visions qui sont celles d'un protectionnisme et d'un intérêt des peuples que d'autres dirigeants internationaux n'ont pas.
Quand vous dites un lobbyiste, ça veut dire que vous réservez le droit, vous, de ne pas forcément suivre ce qu'il dit. Le mot lobbyiste n'est pas particulièrement un compliment dans votre bouche.
À moi, le mot de lobbyiste, c'est simplement un groupe de pression. Ces groupes de pression, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont des informateurs, ils sont des gens qui peuvent présenter des schémas, et après, charge à chacun d'aller dans ce sens-là ou de ne pas y aller.
Joël Mélin, est une émotion suscitée par une question médicale, et vous êtes médecin, l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Qu'en pensez-vous ?
Bah écoutez, si donner à boire et à manger est un soin, ça voudra dire que toutes les mamans qui allaitent leur bébé ou qui donnent à manger à leurs enfants sont des soignants. Donc je crois qu'il y a un abus absolu. Les soins peuvent être effectivement de donner des antalgiques, de donner des antipyrétiques, c'est-à-dire contre la fièvre. Mais en l'occurrence, laisser quelqu'un qui est parfaitement viable, puisqu'il vit comme cela depuis 10 ans, le faire mourir de faim et de soif, ce qui est parfaitement réprimé pour les animaux dans le code rural et le code pénal, est quelque chose qui est positivement insupportable. Alors j'entends bien qu'il avait, semble-t-il, laissé ses dernières volontés, mais en l'occurrence, ce n'est pas au médecin, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas au médecin d'arrêter une vie qui ne nous échappe pas. Que les soins palliatifs, et d'ailleurs il y a toujours un abus sur ce terme, soient réservés à des gens dont la vie nous échappe, c'est une chose entendue. Mais quand la vie ne nous échappe pas, et surtout dans son cas, lorsque la vie résiste, il est évident qu'il n'est pas possible, sciemment, clairement, de manière préméditée, de vouloir arrêter cette vie par un moyen tout à fait horrible par-dessus le marché, puisque sinon, pourquoi ne pas faire à ce moment-là une injection létale et on n'en parle plus ? Mais ça, on ne le peut pas parce que la loi ne le permet pas. Donc, on a trouvé une solution intermédiaire qui est la pire qu'elle qui soit, précisément pour prouver qu'on... Et tout cela prouve qu'on ne peut pas faire finir cette vie comme ça. Et juste la contradiction dans laquelle se trouvent les confrères est quelque chose qui va devoir être très sérieusement discuté au niveau de l'ordre des médecins. Et l'article qui est invoqué pour dire que il faut absolument respecter l'avis des gens et surtout de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, il ne s'agit pas d'acharnement thérapeutique. D'ailleurs, 3 experts différents ont dit qu'il ne s'agissait pas d'acharnement thérapeutique. Cette vie s'impose à nous.
Merci beaucoup, Joël Mélin, d'avoir été avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Je rappelle que vous êtes médecin et 6e sur la liste du Rassemblement National. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Lydia Aguirous. Elle est candidate Les Républicains, porte-parole des Républicains. Il est 8h sur France Culture.